ça nous rappellera de prier pour la Chine. Parce que il vient directement de Chine. Et ceux qui m'ont apporté sont retournés en me laissant ça. Si cette recherche de ce que doit être la personne humaine, alors je vous ai déjà plus d'une fois expliqué la place de cette recherche en métaphysique, saisir ce comment qui vient de l'âme spirituelle et qui transforme toute notre vie, qui permet à la nature de se développer en personne. La personne implique la nature, la nature n'implique pas la personne. Et alors nous avions vu l'autonomie donnée par la substance, l'autonomie dans l'ordre de l'être, puis la connaissance. Alors, il y a une chose très délicate dans la connaissance, vous comprenez, mais je crois que c'est important de bien le dire et de bien le comprendre. Le développement de l'intelligence, le développement de l'intelligence comme intelligence, réclame la découverte de Dieu. Et la sagesse réclame la découverte de Dieu. Or, il faut bien voir et bien comprendre que c'est très rare les gens qui vraiment ont découvert par leur intelligence l'existence de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont très peu développé leur intelligence métaphysique. Or, seule l'intelligence métaphysique peut découvrir l'existence de Dieu. Alors, vous diriez, dans ces conditions-là, et donc, au fond, il y a très peu de personnes. Vraiment. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre cela. C'est que c'est une intelligence qui cherche la vérité. La personne implique une personne, la personne exige quelqu'un qui cherche la vérité et qui l'a plus ou moins découvert l'existence de Dieu. Au point de vue pratique, du fait que nous acceptons que quelqu'un comme Aristote, quelqu'un comme saint Thomas, a découvert l'existence de Dieu au point de vue purement intellectuel. Je dirais, cela suffit. Je sais qu'il y a des êtres humains qui sont mes frères, qui sont proches de moi, qui, eux, ont vraiment découvert l'existence de Dieu par leur intelligence. Et je me mets à leur école. Et me mettant à leur école, je suis sur une voie qui conduit à la sagesse et qui, par le fait même, me donne les caractères d'une personne. Je m'appuie sur leurs conclusions. Leurs conclusions, je les fais miennes, parce que je considère que ceux-là sont vraiment des hommes qui me conduisent, qui sont mes aînés dans la vie intellectuelle. C'est qui ? Mes aînés dans la vie intellectuelle, ce sont ceux qui ont découvert l'existence de Dieu. Alors, plus ou moins intense, cette découverte, elle est plus ou moins forte. Vous voyez, c'est là où intervient le plus et le moins. C'est là où intervient le point de vue de la recherche. On est toujours, tant qu'on est sur Terre, on est toujours en recherche. Je sais que l'existence de Dieu, je peux la découvrir d'une façon plus parfaite que celle que j'ai actuellement. Je sais que saint Thomas, que je fréquente, m'aide. Je sais qu'Aristote m'aide. Je sais découvrir l'erreur de ceux qui nient l'existence de Dieu. Je connais l'erreur de ceux qui disent que l'intelligence humaine est incapable par elle-même de découvrir l'existence de Dieu. Voyez, il faut prendre cette affirmation avec beaucoup de souplesse, selon le mode humain. Je suis un cherchant la vérité. En définitive, c'est ça. Je suis un cherchant la vérité. Et que dès que je découvre la vérité, je la prends pour être ma lumière. C'est elle que j'aime. Et si j'ai un ami très cher qui, lui, me dit « Non, c'est impossible l'existence de Dieu. On ne peut absolument pas la découvrir sur la terre. » Et que moi, j'ai découvert péniblement. J'ai fait un peu de métaphysique. Et je vois un peu le sens de cette découverte de l'existence de Dieu. Et mon ami, très cher, l'a dit. Si je suis une personne humaine, je préfère suivre la vérité, cette recherche de la vérité, que l'opinion de mon ami. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et c'est surtout là-dessus qu'au fond, que joue cette recherche de la vérité. Je suis quelqu'un qui recherche la vérité en ce sens que la vérité me conduit et je veux que cette vérité me conduise. Alors, je la saisis plus ou moins fortement. Donc, cette exigence d'une intelligence ouverte à la métaphysique et à la recherche de l'existence de Dieu implique du plus et du moins. Et c'est cela qui me fait comprendre que cette recherche de la vérité, elle se fait tout le temps. Elle n'est jamais pleinement acquise. Je saisis mieux l'existence de Dieu par mon intelligence maintenant que quand j'avais 10 ans de moins. Et je suis, depuis 10 ans, et même avant, en recherche. On est tout le temps en recherche de l'existence de Dieu. Et jamais vous pouvez dire, je découvre l'existence de Dieu, c'est suffisant. Non. Parce que c'est une découverte analogique. Et ça, c'est très important. Ça donne un caractère tout à fait différent, voyez, à l'affirmation. Et la découverte de l'existence de Dieu, le point de vue métaphysique. Ça fait comprendre qu'au plan métaphysique, on est tout le temps en recherche. Et si on dit « je ne suis plus en recherche », j'ai découvert l'existence de Dieu. On se trompe. Et au fond, à ce moment-là, on n'a pas le droit de dire qu'on est en recherche de la vérité. Et c'est très subtil, hein, mais c'est très important. Vous rencontrerez des personnes qui disent « j'ai fait ma métaphysique, j'ai découvert l'existence de Dieu, puis ça n'en est plus. » Donc ils considèrent la métaphysique comme une possession, comme un avoir. « J'ai fait ma métaphysique. » Je connaissais comme ça un père, je ne dis pas qui, par respect pour lui, il est mort. Mais il disait de temps en temps, ah, j'ai fait la métaphysique dans le temps. Quand j'étais étudiant. Maintenant, je vois que c'est très difficile. C'est quasi impossible. Donc, on est arrêté devant les difficultés. Parce que on n'est pas arrivé à posséder avec suffisamment de limpidité cette recherche. Celui qui dit ça n'est plus un chercheur de la vérité. Et donc, il lui manque quelque chose pour être vraiment une personne humaine. Et c'est dans cette recherche de la vérité qu'il faut saisir l'éveil de mon intelligence. Mon intelligence progresse toujours dans cette recherche de la vérité. Elle progresse tout le temps. Elle peut aller toujours plus loin. Parce que la métaphysique, la connaissance de l'être en tant qu'être, la découverte de la substance, la découverte de l'acte, et c'est jamais fini. C'est jamais fini. Et donc, la découverte de l'être de Dieu, celui qui dit que cette découverte est faite, donc ça y est, je suis métaphysicien. Il possède cette découverte et il n'est plus dans cet état de recherche. Or, je ne suis vrai que quand je suis dans cet état de recherche. Dès que je clôt cette recherche, je ne suis plus vrai. Parce que à ce moment-là, je dis à mon intelligence, tais-toi, ne va pas plus loin. Alors, on se replie sur soi. Il n'y en est même plus à vivre de ce qu'on a découvert. Ça, je crois que c'est très important. Alors, mon intelligence recherche la vérité, mon intelligence pour rechercher la vérité, elle a des amis. Oui, elle a des amis qui, eux, connaissent mieux que moi, sont devant moi, sont comme des frères aînés. Et ces frères aînés font partie de mon désir de la vérité, de cette recherche de la vérité. Ils sont dans ce plus et moins de la découverte de l'existence de Dieu, de la découverte du jugement de sagesse. Autrement dit, je ne découvre l'existence de Dieu que par une intelligence analogique qui implique ce plus et ce moins, qui est aidé par ceux qui sont autour d'elle, qu'ils soient vivants ou morts, parce que les morts nous ont légué leur cheminement. Et ce cheminement des morts, il est vivant par moi. C'est ça le point de vue de l'aide intellectuelle qu'on peut et qu'on doit avoir les uns avec les autres. Ça change tout, vous voyez. Parce que on a des intelligences plus ou moins pénétrantes, plus ou moins pointues, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire plus ou moins pénétrantes, qui découvrent l'existence de Dieu avec plus ou moins de profondeur. Certains découvre cette existence de Dieu en disant « Oui, des personnes très intelligentes l'ont affirmé. Je m'appuie sur ces personnes. Et ces personnes m'aident. » Et ça, c'est tout à fait légitime. Nous avons la même nature qu'eux. Et nous avons la même intelligence. Et nous pouvons nous servir de leur recherche en disant « Nous, c'est pas très lucide, mais lui, chez lui, c'est beaucoup plus lucide. » Et du fait que lui, c'est beaucoup plus lucide et que il est mon ami, qu'il est proche de moi, je peux considérer que tout ce qu'il a découvert, je l'ai découvert avec lui. Je l'ai découvert grâce à lui. Et je suis persuadé qu'Aristote, quand il voit ses disciples sur terre qui font la même démarche que lui, il est très heureux de voir qu'il a tracé la route à une intelligence aussi pénétrante que celle de Thomas d'Aquin. Et que, en faisant ça, ce résultat pour Thomas d'Aquin, il l'a fait des quantités d'autres qui ont puisé auprès d'Aristote cette découverte géniale de l'existence de Dieu. Et par le fait même, ont eu une intelligence qui s'est profondément développée, s'enracinant dans la réalité. ceci est. Et dans le ceci est, on aboutit à l'existence de Dieu. Ceci, voyez, enlève le caractère un peu trop brutal qu'il y aurait que la personne exige que l'intelligence est affirmée à l'existence de Dieu. Oui, c'est vrai, elle l'exige, mais de quelle manière? Selon une autonomie plus ou moins grande. On a peut-être découvert l'existence de Dieu grâce à Thomas d'Aquin. Je m'appuie sur lui, grâce à la métaphysique d'Aristote. Je sens que c'est ça. Et personnellement, je vais dans ce sens-là. C'est l'être qui peut seul me dévoiler le visage de Dieu. Philosophiquement, c'est l'être pris d'une façon analogique qui me permet de découvrir ce visage de Dieu. La troisième dimension de la personne, c'est l'amour. L'amour spirituel. Les mathématiques qui ne développent pas le point de vue de cet amour personnel, spirituel. Les mathématiques ne font pas partie de la dimension de la personne. Voyez, elles peuvent être une disposition magnifique, mais une disposition. Quelqu'un qui est nul en mathématiques, mais qui a une intelligence très fine et une volonté, elle aussi, très fine et plus proche de cette recherche que le pur mathématicien. Alors, il y a un passage extrêmement important. Recherche de la vérité et amour personnel. Comme nous distinguons nettement l'intelligence ut ratio, l'intelligence comme raison, et l'intelligence comme intelligence. L'intelligence ut ratio se développe dans le domaine scientifique. Et d'une façon magistrale en mathématiques. L'intelligence comme intelligence c'est une intelligence qui peut atteindre la personne l'intelligence qui cherche l'être. Et toute existence l'intéresse. Tout ce qui existe. Ce n'est pas l'intelligence romantique, ce n'est pas l'intelligence sur le possible, c'est l'intelligence qui s'intéresse au jugement d'existence. Ceci est. Et dans le ceci est, il y a je suis. De même, il y a l'amour sensible et passionnel qui porte sur le bien sensible, la passion. Et il y a en moi une capacité d'aimer d'une façon qui n'est plus passionnelle, mais qui est spirituelle. Ce que Descartes n'a pas vu, ce que Aristote a vu, ce que Thomas d'Aquin a vu. Ma volonté est premièrement une faculté qui aime. Et qui, de fait, développe l'amour spirituel. Et l'amour spirituel porte sur un bien spirituel. Quel est le bien spirituel? C'est la personne. La personne, c'est pour nous, pour chacun d'entre nous, le bien spirituel premier. Alors, toutes les personnes, nous les aimons. Supprimer le bien spirituel, c'est supprimer la personne. Et de ramener la volonté uniquement à l'efficacité. Vous voyez ? En bon français, quand on dit un homme volontaire, oh cet homme, est-ce qu'il est volontaire? Alors, on parle tout de suite de la volonté d'efficacité. Mais au-delà de la volonté d'efficacité, il y a la volonté d'aimer. Et donc, il y a en nous une possibilité d'aimer le bien spirituel de l'ami. Le bien spirituel pour moi, pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est premièrement le bien de l'ami. C'est la personne humaine qui a un développement plus simplement aimer les choses matérielles, bonne, mais qui est capable de découvrir le bien spirituel. Et c'est quelque chose d'extrêmement profond, cela. Et qui se développe d'une façon très étonnante dans l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, le véritable amour d'amitié, le véritable, l'amour d'amitié se développe en moi un amour spirituel, un amour pour une personne. Je ne peux aimer vraiment qu'une personne, c'est-à-dire un bien spirituel. C'est autre chose d'aimer un bien spirituel ou d'aimer passionnément. Aimer passionnément, on sait très bien ce que c'est. Remarquez qu'on peut aimer passionnément une personne. Mais ce n'est pas ce qui caractérise mon amour personnel. L'amour d'une personne, de mon ami. J'aime en mon ami sa personne, ce qu'il est capable lui-même d'aimer spirituellement. Il y a une éclosion en nous. Une éclosion très importante de l'amour spirituel, de l'amour, tout simplement d'aimer et d'aimer une personne, d'aimer un ami. C'est tout à fait différent d'aimer un ami que d'aimer un fruit, de goûter un fruit. Dans cet amour spirituel de l'ami se développe en moi cette capacité très profonde d'aimer. Cette capacité profonde d'aimer, le fruit, l'acte de la volonté. La volonté, comme puissance, elle est premièrement une puissance pour aimer. La volonté aime en premier lieu. Elle est faite pour aimer. C'est une découverte que nous pouvons facilement faire dès que nous aimons un ami. Dès que quelqu'un nous dit « Je t'aime, tu es mon ami », et que vous répondez, moi aussi je t'aime, tu es mon ami. À ce moment-là, on atteint la personne. On atteint la personne. On atteint le bien spirituel personnel. On n'atteint pas un bien sensible, c'est-à-dire le regard sensible de la personne. Ce regard sensible de la personne peut être dépassé pour découvrir le bien spirituel. on sait très bien. Il y a deux regards différents. Quand on ne connaît pas très bien une personne, mais c'est son aspect extérieur et visible qui est premier. On l'aime parce qu'elle a de beaux yeux. On l'aime parce qu'on l'aime. Elle nous attire. Et pourquoi une autre personne qui a peut-être des yeux beaucoup plus beaux encore ne m'attire pas de la même manière? Il y a là quelque chose d'infiniment mystérieux. Ce premier amour vis-à-vis d'une personne. Et vous êtes ici, tous ensemble. Chacun et chacune d'entre vous est capable de recevoir l'amour de quelqu'un, de susciter son amour et de le recevoir. Et en suscitant cet amour, elle éveille quelque chose de très grand, de très beau, l'amour, qui, au fond, découvre la bonté personnelle. La bonté personnelle. Ce n'est plus la séduction. On distingue assez facilement l'aspect séduction. Telle personne me séduit. Mais je ne sais pas pourquoi elle me séduit, mais je ne peux pas dire que l'aime. Elle me séduit. Quand elle est là, je suis bien obligé de la regarder. Elle m'attire. Et je suis tout proche de l'aimer, mais non, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, c'est-à-dire, je n'ai pas de la haine pour elle. Hein. Mais je me dépêche de voir quelqu'un d'autre. Et puis telle autre personne, elle m'attire et je l'aime. Ce premier amour spirituel, c'est quelque chose de très grand. Et bien ce premier amour spirituel, il fait partie de ma personne. Une personne humaine est capable d'aimer. Elle est capable de dépasser la séduction, de dire non aux séductions, de ne pas se laisser prendre aux séductions, mais au contraire, d'aimer calmement, au-dessus de la passion. Il y a eu presque toujours, avant cet amour spirituel, un amour de passionnel. On était intrigué. Tiens, je voudrais bien la connaître. Elle m'intéresse. Elle a un regard, je ne sais quoi, et on n'arrive pas à préciser qui l'attire, qui m'attire. Et quand je peux la revoir, je vois bien que cette attraction, elle existe et que je l'aime. l'amour présuppose cette attraction. Mais l'amour n'est pas l'attraction. C'est plus. L'attraction me donne la possibilité d'aimer. Et l'amour spirituel s'éveille en fonction du bien. C'est très étonnant de voir en nous la naissance véritable d'un amour personnel. De voir l'éclosion de cet amour personnel. La passion, ordinairement, est présente, mais il y a plus que la passion. Il y a un dépassement de la passion. Dans la passion, vous êtes attiré, séduit, et vous suivrez le gibier. À sa trace. Dans l'amour, il y a quelque chose de plus. C'est que vous aimez. Et c'est là, je crois, la très grosse différence entre l'amour passionnel, qui n'est pas mauvais, l'amour passionnel. Nous avons tous des expériences d'un amour passionnel. Je serais bien triste qu'arriver à 20 ans, 25 ans, 30 ans, on n'est pas l'expérience d'un amour passionnel. C'est pour moi que... on est particulièrement lointain des autres, volontairement. Dans l'amour, on se donne. Dans la passion, on capte. C'est pas la même chose. Alors les deux peuvent être très liés. On peut sentir vraiment cette capacité de se donner. Et puis, en même temps, cette espèce d'attirance où on prend. Les deux sont liés, souvent, mais les deux se distinguent. On peut les distinguer. L'amour spirituel est un don. L'amour passionnel, je capte, je prends pour moi. Et j'essaie de capter toujours plus dans l'amour passionnel. Tandis que dans l'amour spirituel, je me donne. Et je me donne à celui qui m'attire. Eh bien, cette activité de la volonté d'aimer est tout tout à fait première. Elle va évoluer dans des points de vue différents, alors que le premier développement de la volonté, c'est justement se donner. Le premier mouvement de la volonté est un élément de la personne. Une personne humaine est capable de se donner. Je ne dis pas que le fait de posséder l'autre, de le prendre à soi, fait partie de la personne, non. C'est l'élément passionnel. C'est l'élément qu'on doit au contraire dominer pour pouvoir aimer.